Faut-il conserver les statuts des personnalités qui sont liées au passé esclavagiste des différents pays ?
Un personnage résume ce dilemme, Jean-Baptiste Colbert, le principal ministre de Louis XIV, l'artisan de l'expansion de la France au XVIIe siècle, oui, mais aussi l'inventeur du code noir qui réglementait l'esclavage.
Pour certains, il faudrait démonter, pour d'autres, il n'est pas question d'y toucher, tout simplement.
La colère gronde, on déboulonne les statues, les symboles de l'oppression sont attaqués.
Ne jamais laisser une sculpture, une statue, une plaque de rue sans explication. C'est à mon avis pour moi la meilleure des vertus pédagogiques.
Faut-il déboulonner Colbert ? Depuis de nombreuses années, aux États-Unis et au Royaume-Uni se pose la question des symboles du passé dans l'espace public. En France, on commence tout juste à en examiner les vestiges, et particulièrement depuis la mondialisation du mouvement Black Lives Matter. Politiques et militants s'interrogent. Faut-il déboulonner les statues d'esclavagistes, les déplacer dans des musées, ou les contextualiser pour ne jamais oublier ? Les Mémoires vives, épisode 3. La France face à son passé esclavagiste. Ces questions résonnent plus fortement dans les villes de la côte atlantique dont les ports ont amarré les bateaux qui ont transporté des milliers d'êtres humains au XVIIIe siècle. Nantes n'a pas attendu 2021 pour s'attaquer à son passé esclavagiste. Aujourd'hui, en France, elle fait figure de pionnière. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre devenu président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, a été maire de Nantes pendant 23 ans, de 1989 à 2012.
Quand je me suis présenté à Nantes en 1989, j'ai pris l'engagement que dans mon programme municipal, on organiserait des événements et on ferait tout un travail de mémoire pour que Nantes regarde son passé en face. Moi, je me souviens très bien, j'étais maire de Saint-Herblain à l'époque, où j'ai été maire 12 ans, de 1977 à 1989, avant de me présenter à Nantes. Et un de mes collègues, dans mon équipe municipale, qui s'appelait Octave Sestor, originaire de la Martinique, était installé à Nantes, me dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et lui, il m'a proposé de participer à un premier événement de commémoration, de mémoire, en jetant des fleurs dans la Loire. On a commencé par ça, très symboliquement, c'était en 1986. Et à un moment, il me dit, mais est-ce que tu crois qu'un jour on pourra avoir un débouché politique à cette attente ? J'ai dit, écoute, si les conditions politiques sont réunies, je ne savais pas que je me présenterais encore à Nantes, alors moi je m'engage à faire quelque chose.
Sous ses mandats est organisée une exposition, Les Anneaux de la mémoire, et un musée d'histoire de Nantes est ouvert, avec de nombreuses salles consacrées à cette part de l'histoire de la ville, et enfin, le mémorial de l'abolition de l'esclavage est inauguré.
Si on veut comprendre l'histoire d'une ville, si on ne connaît pas ça, si on ne donne pas les clés de compréhension, alors on fait une faute. Et je pense qu'il est important que les habitants de Nantes, et en particulier les jeunes, beaucoup de classes, d'écoles, de primaires, de collèges et de lycées, viennent visiter le musée, et ils ont une compréhension. Quand on insulte les joueurs de football sur le terrain, on les traite de ramasseurs de coton. Donc ça vient bien de quelque part. Donc, bien connaître cette histoire, c'est pas pour chercher à diviser, à culpabiliser, mais c'est pour être plus lucide. Et puis, affronter les questions de notre époque.
Est-ce que c'est ça, faire un travail de mémoire ?
Oui, c'est ça, un travail de mémoire. C'est fait pour être utile, c'est pas fait pour régler des comptes. C'est pas fait pour, comme certains nous le reprochent, pour battre sa coupe. C'est pas la concurrence des mémoires qu'il faut cultiver. C'est le travail sur la base de la vérité, de constituer une mémoire commune et une mémoire partagée. Et c'est ça qui nous rendra plus forts. Et mon expérience de Nantes, avec le travail qui a été fait depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui et qui continue, avec le musée, avec les parcours mémoriels, avec bien sûr le mémorial où nous nous trouvons en ce moment, c'est un travail qui n'a pas affaibli les Nantais, qui ne les a pas déchirés, qui les a au contraire renforcés. Et d'ailleurs, je crois que les Nantais sont fiers que ce travail ait été fait, que la ville de Nantes était en avant-garde en quelque sorte.
Il faut dire que l'esclavage a laissé des traces partout à Nantes. Le syndicat d'initiative de la ville propose des visites avec des guides conférenciers spécialisés sur le sujet. Brigitte Château est l'une d'entre eux. Elle nous a fait parcourir la ville pour nous montrer toutes les traces que l'esclavage avait laissées, plus ou moins évidentes.
Et comment ils réagissent en général les gens, que ce soit des Nantais ou des non-Nantais, quand vous leur faites ce type de visite ?
Très demandeurs, au point même qu'on nous a parfois demandé d'en proposer davantage dans le planning des visites guidées, ce que l'on fait maintenant. Donc quelque chose de grandiose, des balcons en fer forgé, et sur cette place, Moi, je trouve qu'il y a un petit esprit de la place de la Concorde. C'est une grande place, une colonne au milieu. Le port commençait ici, hein, puisqu'il y avait la Loire, et continuait là-bas. Donc là, on est face au port. Et la marchandise qu'on va rapporter le plus à Nantes à partir du XVIIe siècle, et ça va s'accélérer avec le commerce triangulaire, bien sûr, c'est le sucre.
Et là, on est où ?
On est quai de la Fosse, place de la Bourse et quai de la Fosse. Et de l'autre côté, donc de ce grand boulevard qui autrefois était la Loire, on a un magnifique bâtiment, toujours dans le même esprit du grand hôtel particulier. Donc trois niveaux avec un fronton triangulaire au milieu. Aujourd'hui, c'est le tribunal administratif. C'est l'hôtel d'Heurbrook.
Si Nantes est à la pointe du travail de mémoire, beaucoup d'habitants n'ont pas encore tout à fait conscience des nombreux stigmates qui parsèment la ville.
Les Nantais connaissent l'île Feydeau. C'est quand même un quartier qui est extrêmement connu à Nantes comme étant le quartier des armateurs de la ville, même si des armateurs, il y en avait partout. Après, il faut prendre le temps d'observer. Il faut avoir la volonté de faire l'effort de regarder. Les visites guidées participent également à cet apprentissage.
Il suffit de lever les yeux. De nombreux bâtiments de la ville possèdent des balcons en fer forgé, typique du XVIIIe siècle. Et sous ces balcons, on peut aussi voir ce qu'on appelle des mascarons.
Les mascarons, effectivement, ça c'est très à la mode sous Louis XV. Hein. Ça vient du mot masque, ce sont ces têtes qui ornent les ouvertures. Alors parfois, bah, c'est la tête du propriétaire. Parfois, on peut trouver des têtes d'Africains. Une référence très très claire au type d'armement du propriétaire, hein, le commerce triangulaire. Et très souvent, on va voir des têtes de dieux de la mythologie. Et les trois qu'on va retrouver partout, à savoir le dieu de la mer, le dieu du commerce et le dieu du vent, c'est-à-dire Neptune, Poséidon, Éole, le dieu du vent, et Mercure ou Hermès, le dieu du commerce, des voyageurs. Cheminement entre le château à l'est de la ville et le mémorial de l'abolition à l'ouest de la ville. Et sur ce parcours, vous avez 12 panneaux qui expliquent ce qu'était la traite négrière en reprenant des éléments ou des objets que l'on trouve dans le château. Et nous arrivons rue Kervégan.
Et là, en fait, ce panneau, il s'appelle les rues témoins de l'histoire et ça permet d'expliquer rapidement que la rue Kervégan, dans le quartier Feydeau.
Voilà, on explique qui était Kervégan. Donc, négociant, armateur, homme politique français, maire de Nantes, activité d'armateur et de négociant, tout comme celle de la grande majorité négociants nantais de l'époque, le désigne aussi comme un des acteurs de la traite des Noirs à Nantes. Les noms de rue ne servent pas seulement à s'orienter, ils traduisent la mémoire d'une ville. À travers ces noms, une ville exprime son identité collective et son rapport à l'histoire. Ces choix ne peuvent se comprendre que par rapport au contexte qui les a vus naître. En France, la loi du 21 mai 2001 qualifie de « crime contre l'humanité » la traite négrière transatlantique et l'esclavage perpétré à partir du XVe siècle. Nantes a fait le choix de maintenir les noms des rues attribués à des personnalités politiques ou économiques qui ont participé de près ou de loin à la traite, pour assumer, sans stigmatiser, l'héritage de son histoire.
Jean-Marc Hérault.
Moi, je pense que, notamment en ce qui concerne Nantes, le travail doit se poursuivre. Et il doit se poursuivre, par exemple, alors il y a ce qu'on appelle déjà les parcours mémoriels dans la ville. On va visiter tel monument, telle architecture qui a été le fruit d'investissements issus de l'enrichissement lié à la traite. Donc c'est important d'expliquer. Il y a des plaques qui sont mises. Je pense que ce travail, il faut qu'il continue. Sur les noms de rues, les noms de places, il ne s'agit pas forcément de débaptiser, mais au moins expliquer. Donc ce travail, il faut qu'il se poursuive. Il faut qu'il se poursuive, mais pas seulement à Nantes, il faut qu'il se poursuive partout, parce qu'on a beaucoup de retard.
Parce qu'à Nantes, le choix qui a été fait, c'est une plaque pour toutes les rues.
Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut poursuivre ce travail. importante. Parce que je pense que le visiteur dans la rue, quand il passe devant une statue de quelqu'un qui était un colonisateur, qui a conquis des territoires par la guerre, il faut qu'on explique ce personnage. Soit on garde sa statue à cet endroit, ou alors on la met dans un musée. Moi, je ne suis pas pour la destruction des statues, mais faut expliquer. Et donc, à l'Assemblée nationale, il y a une statue de Colbert. Je n'ai jamais demandé de l'enlever. Il y a d'autres personnages historiques. Par contre, je pense que ça serait bien, comme au ministère de l'économie et des finances, où il y a un immeuble qui s'appelle Colbert, d'expliquer que Colbert, c'était peut-être le grand ministre de l'économie Louis XIV, mais c'était aussi l'auteur du Code noir, puisqu'il est à l'origine du Code noir. Et le Code noir, c'est pas rien. L'esclavage était interdit en France, dans la métropole. Et le Code noir justifie juridiquement, par un acte juridique qui s'appelle le Code noir, qu'on puisse mettre en esclavage d'autres personnes humaines, mais dans les colonies. Donc c'est une exception juridique qu'on va installer et qui va durer très très longtemps. Même après l'abolition, il y aura encore des exceptions dans les colonies, puisqu'il y aura le code de l'indigénat, il y aura le travail forcé, etc. Je pense que, au moins, au minimum, il est souhaitable qu'on explique Colbert, c'était ministre de l'économie, mais aussi le code noir. Et la même chose à l'Assemblée nationale. S'agissant de la salle Colbert, moi j'ai été député pendant 30 ans, j'ai été président de groupe parlementaire pendant mandats, donc j'ai souvent siégé dans la salle Colbert. C'est un petit hémicycle qui s'appelle Colbert, qui a été donné à l'époque de la Troisième République, donc il n'y a pas d'existence historique particulière. Il y a d'autres salles qui ont des noms, il y a la salle Lamartine qui était un abolitionniste, donc c'est positif. Colbert, moi j'avais dit pourquoi garder ce nom de Colbert dans cette salle alors qu'on a la statue de Colbert un peu plus loin. Pourquoi pas, par exemple, symboliquement donner le nom du premier député noir qui est arrivé à l'Assemblée nationale, qui arrivait d'Haïti, à l'époque Saint-Domingue, et qui a voté l'abolition de l'esclavage en 1794. Voilà, j'ai rien dit d'autre, c'est pas scandaleux, c'est pas révolutionnaire. Oh là là, ça a soulevé une polémique. Toute une polémique.
Pourquoi ?
J'en sais rien, c'est dire à quel point cette question est sensible.
Alors, mon point de vue sur débaptiser des noms de rues, pourquoi pas ? Enfin, après, il y a de nouvelles rues à créer aussi.
Frédéric Réjean est historien, spécialiste de l'histoire de l'esclavage.
Mais lorsqu'il y a des personnages de l'histoire qui sont problématiques, je crois que le minimum qui doit être fait, c'est d'expliquer leur rôle, mettre des plaques explicatives sur leur rôle. Et je préfère ça plutôt que de débaptiser la rue, qu'elle devienne rue des Pâquerettes. À la limite, je préfère qu'on mette rue Colbert et puis qu'on explique que rue Colbert est celui qui a inspiré l'édit de mars 1685 qui deviendra ensuite le Code noir, plutôt que que ça devienne rue des Pâquerettes. Parce que quelque part, c'est comme quand on enlève une statue. C'est une trace du passé que l'on enlève. Moi, je prends l'exemple. En Guadeloupe, vous avez la tombe du général Richepense, celui qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Et je pense que voilà, c'est une trace du passé, c'est une archive du passé, d'autant que c'est pas une statue qui a été mise à sa gloire, c'est son tombeau. Pour moi, c'est une archive de pierre, et on brûle pas les archives de papier, on détruit pas les archives de pierre.
Ne pas déboulonner. Une position que le président Emmanuel Macron a fermement défendue lors d'une allocution le 14 juin 2020.
La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire.
Aujourd'hui, il y a tout un débat sur la question de l'histoire et de la mémoire. On a tendance à confondre histoire et mémoire.
Mam Fatou Niang est maîtresse de conférences en études françaises à l'université de Carnegie Mellon aux États-Unis. Elle est également photographe et réalisatrice du film Marianne Noire et travaille sur les questions de mémoire.
On voit ce débat qui part dans tous les sens. Je me rappelle des mots de Macron qui disait la République n'effacera pas de nom, la République ne fera pas tomber de statues. Et moi, la réponse que j'avais par rapport à ça, c'est montrez-moi où sont les statues de Pétain qui restent encore en France. Est-ce qu'on retrouve encore des écoles qui portent le nom de Pétain ? Et pourtant, Pétain a été quelqu'un d'extrêmement important pour nous au sortir de la Première Guerre mondiale. Mais ses actions durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy fait qu'il était impensable pour la France au sortir de 1945, que des écoles portent encore son nom, que des rues, des avenues, des boulevards, donc ces rues ont été débaptisées. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a oublié Vichy, ce n'est pas pour autant que personne ne sait qui est Pétain. Donc la question qui s'est posée et qui a été résolue à l'époque, c'est qu'on peut apprendre l'histoire de Vichy, on peut apprendre cette histoire-là, on n'oubliera pas qui est Pétain, aussi bien dans la complexité de ses actions héroïques de 1914-1918 que dans ce qu'il a fait en 1945. On n'oublie pas Pétain, mais il est impensable que ses bustes ornent nos rues. Il est impensable que nos avenues, nos rues, nos boulevards portent son nom. Il est impensable que nos enfants aillent dans des écoles dont le fronton porte son nom. Impensable. Ça a été fait. On n'a pas oublié Pétain. Donc, pourquoi ce ne serait pas possible pour Bugeaud? Pourquoi ce ne serait pas possible pour les auteurs du Code Noir? Pourquoi? On peut se rappeler de l'histoire, mais il faut vraiment se rendre compte à quoi sert une statue. Une statue dit quelque chose à un moment précis. Elle dit une certaine idée de la domination. Elle dit, pour revenir au mot de Renan, ce qu'on veut retenir de notre histoire. La statue, la rue, est le fruit d'une sélection. Donc, elle dit quelque chose de nous. Et qu'est-ce que la France dit d'elle-même? Ou qu'est-ce que la France aurait dit d'elle-même si elle avait, en 2021, on avait encore 350 écoles qui portaient le nom de Pétain? Eh bien, moi, je veux qu'on fasse la même réflexion par rapport à l'histoire de l'esclavage. Qu'est-ce que la France dit d'elle lorsque nos enfants vont dans des écoles qui portent le nom d'esclavagistes? Qu'est-ce que la France dit d'elle lorsque nos avenues, nos rues, portent le nom d'esclavagistes, portent le nom de bourreaux? Donc, qu'est-ce que nous disons de nous? Alors, les formes que ce processus devra adopter, il faut qu'il y ait un débat. Et c'est la question aujourd'hui en France, parce qu'on considère qu'il n'y a pas à avoir débat et que l'idée même d'introduire ce débat, c'est du séparatisme, c'est de l'indigénisme, c'est voilà. Alors qu'il faut qu'on ait un débat sur les formes que cette mémoire, est-ce qu'on laisse les noms de ces personnes en apposant une petite explication pour dire qui ils ont été, combien de personnes ils ont gazé ou tué? Est-ce qu'on enlève ces statues, ces noms de rue, et qu'on met ces statues dans des musées, qui seront des musées... on ne sait pas. Mais il nous faut aujourd'hui une consultation nationale, un débat national sur ces statues-là, ces noms de rue-là, et leur devenir. Et ce débat national, pour l'instant, on est dans les balbutiements.
Je vous rappelle qu'en France, si vous et moi, ou chacun ici, on veut emmener nos enfants voir l'histoire coloniale et un musée, il n'y en a pas. Donc les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont.
Façon de se réapproprier l'histoire.
Mais on fait tout ça. On fait tout ça de se réapproprier l'histoire. Quand l'outil de l'État, quand la culture ne produit pas, quand il n'y a pas de musée, quand on ne peut pas raconter l'histoire en commun, quand on ne peut pas fabriquer une mémoire commune, eh ben les gens, ne soyons pas étonnés qu'ils tentent en bricolant de se reconstruire une reconnaissance dans un pays. C'est complexe.
Pardonnez-moi, mais le déboulonnage de la statue, c'est un refus de la complexité. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce moment-là, tout ce qu'on a entendu là, cette jeune femme américaine, cette jeune femme belle, elle réclame, au nom de cette complexité, elle réclame un débat. Voilà, un débat contradictoire, et ensuite on prend des décisions. Là, il y a un côté, on s'attaque à un symbole, on se donne bonne conscience et on refuse la complexité. Je ne trouve pas que ça soit une procédure démocratique, et je ne suis même pas sûr que ça fasse avancer quelque cause que ce soit.
Voilà, je partage ce point de vue. C'est-à-dire que, moi d'abord, je suis contre déboulonner. Un historien ne peut pas être d'accord pour déboulonner un élément de patrimoine. Excusez-moi, mais ce serait l'antinomie même d'être historien.
Non, mais après, elle proposait de les déplacer dans un musée.
Ah, mais oui, voilà. S'il y avait un musée. Alors, tiens, on est d'accord. Oui. Voilà. Au moins, c'est de quoi va être rempli notre musée.
L'histoire n'est pas rentrée dans un musée. Il est là, le problème.
Attendez, on va même être encore beaucoup plus factuel. Il y a 12 744 musées en France. On a fait 23 musées du sabot et on n'a aucun musée d'histoire coloniale.
La pédagogie, c'est parler, c'est les mots, trouver les mots. Parler de l'histoire. Pour moi, il n'y a pas quatre chemins. Je vais vous donner un exemple qui est inconnu de manière absolument criminelle. L'un des bâtiments les plus célèbres de France, le Palais de l'Élysée, construit en 1718, inauguré autour de 1720-1721. Donc le Palais de l'Élysée, il a été construit et entièrement financé par un armateur qui s'appelait Antoine Croizat, qui voulait y loger sa fille, je crois. Antoine Croizat est à l'époque, on nous dit qu'il est l'homme le plus riche de Paris. Et Antoine Croizat, à l'époque, est un armateur qui a fait fortune dans le commerce des esclaves, qui sont fournis, donc qui sont pris en Afrique pour être fournis dans les colonies espagnoles, la Louisiane, etc. Il est à la tête d'une fortune absolument colossale. C'est l'un des premiers propriétaires terriens de la Louisiane. Il crée la compagnie de la Louisiane. Et donc, voilà, le palais de l'Élysée est un palais négrier. Je connais beaucoup ce qui se passe autour de Paris. Je pense à un autre grand bâtiment de notre patrimoine architectural, la Banque de France. Je pense à la Caisse des dépôts. Ce sont des choses qui sont absolument intégrées à notre imaginaire architectural, à notre patrimoine architectural, et qui sont liées, dont le financement, la construction et les opérations sont absolument directement liés au commerce de l'esclavage. Donc ça, c'est notre passé, c'est notre réalité. On passe tous les jours devant le passé de l'Élysée, on ne le sait pas. Donc la solution, c'est très simple. Il faut révéler cette histoire, il faut qu'elle soit connue. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que le lien entre le passé et le présent, il nous accompagne tout le temps. Lorsqu'on pense qu'être français, c'est avoir participé à cette grande histoire, à l'élaboration de ce grand pays, et qu'on a une certaine vision de l'autre, du différent, de l'arabe, du musulman, du noir, comme quelqu'un qui est le résultat d'un transport post-colonial, de quelqu'un qui serait venu en France post-1945, post-1970 et qui était attiré par les Trente Glorieuses, etc., ou qui n'est en France que pour profiter de la générosité de l'État, de la générosité des allocations. Ce discours est très, très prégnant. Et de ne pas se rendre compte que cette personne, son compagnonnage avec la France, date de beaucoup plus longtemps et que ses ancêtres ont contribué de manière, par leur sang, par leur sueur, par l'extraction des ressources de leur pays d'origine, à l'élaboration, à la construction de ce passé, et que ce sang, cet argent, il est visible dans nos noms de rue, il est visible dans les statues, mais il est aussi partout, dans nos écoles, les bâtiments, dans nos institutions, dans les grands hôtels qui aujourd'hui abritent nos ministères, abritent révéler ce patrimoine-là. Et ce n'est pas dans une veine de revanche ou dans une veine d'amener de la repentance, mais c'est vraiment révéler l'histoire telle qu'elle s'est véritablement déroulée et donc créer ce nuage de mots qui, pour moi, est extrêmement important pour donner une image mentale aux Français de ce qu'est la place de l'esclavage dans notre histoire commune. L'esclavage n'est pas une histoire, ce n'est pas passé. On n'est pas dans du passé, on est dans quelque chose dont les ramifications sont encore extrêmement présentes et on touche ce passé tous les jours, lorsqu'on va à la mairie du 20e, lorsqu'on visite l'Élysée, lorsqu'on visite Nantes, lorsqu'on rentre dans les écoles à Nantes, ce passé, il est là, sauf qu'il est silencié et il faut le désilencier.
Pierre Guillon de Princé est un descendant d'armateur. Pendant les journées du patrimoine, il organise des visites guidées sur le passé esclavagiste de la ville de Nantes.
Je suis descendant d'une famille d'armateurs négriers. Ça n'était pas caché dans ma famille, mon père nous en parlait, mais on n'avait pas beaucoup de détails. Donc le sachant, lorsqu'il y a eu une exposition Les Anneaux de la Mémoire en 1992, j'étais allé la voir, je l'avais trouvée très intéressante. Et puis plus récemment, j'ai un de mes petits-enfants qui m'a interrogé sur ma généalogie. Il s'est trouvé intéressé, il voulait voir mon arbre généalogique, donc je l'avais remis à jour et j'avais bien mentionné dessus qu'il y avait eu ces deux générations d'armateurs négriers. Et puis comme j'avais 8 petits-enfants, dont 6 étaient ados ou voire pré-ados, je me suis dit tant qu'à faire, je l'envoyais aux 8. Et puis c'est l'aîné de ma fille, un autre donc de mes petits-enfants, quand il a vu ça, il a dit mais c'est la honte. Alors je me suis dit ça nécessite quelques explications.
Si les débats sont encore vifs, les actions de Nantes en matière de mémoire semblent une bonne piste à suivre pour les autres villes de France. C'est l'avis de Michel Cocotier, président de l'association Mémoire de l'Outre-mer à Nantes depuis une dizaine d'années.
On a quand même là une évolution sur 30 ans qu'il faut saluer. C'est un sujet qui est tabou à l'époque, en 1980, et qui est publiquement, avec un mémorial de grosse dimension, affiché comme étant notre passé à nous Nantais, nous l'affrontons. Donc, on ne peut pas ne pas être satisfait. Pour preuve, on nous envie à Bordeaux, à La Rochelle, à Saint-Malo, même s'il y a eu d'autres avancées, qui sont d'ailleurs bien souvent nées de cette situation en avant-garde de la ville de Nantes. On nous envie, donc ça veut dire que ce travail, il a été mené comme précurseur avec une volonté de faire face à ce passé sans honte.
C'était Les Mémoires Vives, un podcast du Musée d'Histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Caron, réalisé par Aurélie Rodriguez et produit par Slide.fr. Pour aller plus loin, retrouvez les références citées dans cet épisode dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du musée à l'adresse châteaunantes.fr ou sur celui du mémorial, memorial.nantes.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio ou sur vos plateformes de podcast préférées.